Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Quand Donald Trump demande un service à un dirigeant étranger, le président américain dans la tourmente après avoir sollicité l'aide de son homologue ukrainien et cela pour fragiliser son rival Joe Biden. Dossier dans ce journal avec Grégory Phillips et notre invité Laurence Nardon de l'Institut français des relations internationales. Donald Trump qui ne rencontrera pas le président iranien à l'ONU, Hassan Rouhani refuse un tel sommet tant que les négociations avec Washington n'auront pas abouti. Les explications de Christian. En France, Jean-Luc Mélenchon utilise le terme de barbare pour qualifier les policiers. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande des excuses au chef des Insoumis. Les précisions de Stéphane Robert. C'est désormais une certitude. Donald Trump a bien demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur Joe Biden, son principal rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Le département américain de la justice a révélé aujourd'hui le contenu du dialogue téléphonique entre Trump et Zelensky cet été. Dès hier soir, l'affaire du coup de fil avait conduit les démocrates à enclencher une procédure de destitution contre le président américain, le fameux impeachment, une procédure enclenchée à la Chambre des représentants. Où ils sont majoritaires. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
La conversation a duré 30 minutes le 25 juillet au matin et la Maison Blanche en révèle le contenu en déclassifiant ce document. Il ne s'agit pas d'un enregistrement mais d'une compilation des notes et souvenirs des conseillers qui se trouvaient présents autour de Donald Trump. Malgré cela, le document de 5 pages est assez détaillé. On peut y lire ceci. Donald Trump s'adresse au président ukrainien nouvellement élu Zelensky et il lui dit « Je vais vous demander une faveur. Ici, on parle beaucoup du fils Biden et du fait que Joe Biden a arrêté l'enquête qui le visait. Beaucoup de gens veulent en savoir plus, donc ce serait formidable si vous pouviez vous pencher dessus. » Puis le président américain propose de mettre en relation les autorités ukrainiennes avec son ministre de la Justice, William Barr, et son avocat, Rudy Giuliani. Il y a donc clairement une demande de la part de Trump d'enquêter sur le fils d'un rival politique. Commentaire ce soir du représentant démocrate Adam Schiff, qui dirige la commission du renseignement. Ce sont là des manières de mafieux.
Grégory Phillips, merci. Donald Trump qui a réagi avec virulence à ces dernières révélations lors d'une conférence de presse électrique. Le président américain a balayé les accusations de ses rivaux démocrates avec une ligne de défense classique. Il serait victime de fake news relayées par certains journalistes.
Il n'y a aucune pression. Vous avez inventé toute cette histoire, écrit que c'était un horrible coup de téléphone, alors qu'en fait, c'était un coup de fil de rien du tout. Rien d'autre qu'une conversation au téléphone entre deux dirigeants pour se dire leur sympathie. Donc le problème, c'est que vous avez ces fake news, ces journalistes corrompus. Il y a des bons journalistes, mais il y a aussi des reporters corrompus. Et excusez-moi. Si vous avez remarqué, la bourse a dégringolé quand hier, elle a appris l'ouverture de cette enquête. Et puis, les cours sont très vite remontés, quand ils ont compris que c'était du non-sens complet. La bourse a remonté très fort. Merci beaucoup.
Donald Trump tout à l'heure à la Maison-Blanche. Alors la procédure d'impeachment lancée par les démocrates a peu de chances d'aboutir puisque les républicains sont majoritaires au Sénat américain. Mais cette affaire va sans conteste animer la campagne présidentielle. On en parle avec l'invité de ce journal, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
Laurence Nardon, ces révélations sur le coup de fil entre Trump et Zelensky sont-elles de nature à fragiliser la défense de Donald Trump ?
Oui, il y a le mot « favor », le mot « service » qui apparaît clairement dans ce document, qui n'est pas exactement un transcript d'ailleurs, mais qui est une retranscription en tout cas assez fidèle manifestement de l'échange téléphonique. Est-ce que ça va le fragiliser ? Ben, ça va être tout le discours des démocrates que de le dire. On est dans un pays extrêmement polarisé et donc je pense que les partisans du président diront pour leur part que tout va très bien, ça n'est pas vraiment condamnable, que c'est une chasse aux sorcières et, comme a dit le président dans un tweet cette nuit, du harcèlement présidentiel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un pays où la réalité est absolument interprétée par les uns et les autres suivant leur inclinaison idéologique. Et donc, je ne suis pas sûre que cette conversation soit en elle-même suffisamment épouvantable. Elle l'est certainement, mais pas forcément assez pour que les républicains qui suivent le président depuis 3 ans maintenant changent de camp.
Comment expliquer tout de même que Donald Trump prenne un tel risque politique en demandant ce qui ressemble tout de même à un service à un dirigeant étranger ?
C'est tout à fait surprenant, mais pas tant que ça, si l'on considère le personnage Donald Trump, qui depuis le début ne fait pas de différence entre les affaires privées, les affaires de tactique politique et politicienne et les affaires de l'État. C'est-à-dire que c'est un personnage qui mélange tout un petit peu comme un mafieux. Enfin, c'est un terme très fort, mais il ne fait pas du tout de différence éthique entre ce qu'il doit faire en tant que président, ce qu'il doit faire en tant que candidat politique et en tant que personne privée, voire businessman.
Alors, du coup, la procédure d'impeachment pourrait s'accélérer avec ces révélations, selon vous ?
En fait, ce qui s'est passé du côté de la Chambre des représentants hier soir, c'est que là où un certain nombre de démocrates, y compris Nancy Pelosi, étaient jusqu'à présent restés très réticents sur l'idée d'une procédure d'impeachment, ce qui s'est passé, c'est que certains d'entre eux, un nombre suffisant d'entre eux, ont changé d'avis, précisément parce que cette affaire avec le président ukrainien devenait éthiquement trop grave. Jusqu'à présent, l'affaire Mueller, sur l'histoire de la collusion entre Trump et des pirates informatiques russes, n'avait pas suffi à les faire basculer. Mais là, ils ont basculé avec cette nouvelle histoire. Donc, du côté de la Chambre, qui est chargé de mettre en accusation le président. Mettre en accusation, c'est la traduction exacte de impeachment. Il y a suffisamment d'élus démocrates pour atteindre une majorité simple pour s'être mise en accusation. Mais si celle-ci est votée, l'affaire passe alors du côté du Sénat, qui doit voter à la majorité des 2/3 la destitution véritablement du président. Donc ça se fait en 2 temps. Et comme vous le dites très bien, au Sénat, les républicains non seulement sont majoritaires, 53 contre 47, mais en plus il faudrait 2/3 de votes positifs pour que la destitution soit votée. Donc ça n'a aucune chance d'aboutir. Et j'en reviens à cette raison qui est qu'à mon avis, les démocrates ont simplement pensé que éthiquement, leur position n'était plus tenable par rapport à ce président qui ne pouvait plus rester sans rien faire.
En revanche, côté républicain, le parti reste très largement derrière Donald Trump.
Oui, effectivement, du côté républicain, c'est ce qui est absolument stupéfiant depuis que Trump l'a emporté à la convention républicaine à l'été 2016, c'est que ces républicains qui n'aiment pas beaucoup Donald Trump a pris leur parti en otage, et bien malgré ça, ils sont d'un manque de courage total face à ce président et pour l'instant, à part quelqu'un comme John McCain, bon, qui n'est plus de ce monde, ou Mitt Romney, il y a très très peu de républicains qui osent s'opposer au président, alors que quand même, d'un point de vue moral, ils le devraient.
Laurence Nardon, du côté démocrate, Elizabeth Warren devance Joe Biden pour l'investiture, en tout cas dans les derniers sondages. Quelles sont ses chances face à Donald Trump ?
C'est une nouvelle très importante, hein, parce que Joe Biden et Elizabeth Warren, qui semblent donc tous les deux prendre la tête du pack démocrate, on va dire, ont des profils similaires sur certains points. Ils ont un certain âge, ils sont blancs, ils sont connus depuis longtemps. Mais enfin, ils diffèrent énormément sur leur programme politique, avec un modéré et puis une plus radicale. Jusqu'à présent, Trump avait évité de s'en prendre à l'un de ses adversaires démocrates en particulier, pour ne pas que l'attention des électeurs démocrates se cristallise sur cette personne pour la faire émerger. Quand il parlait des démocrates, il avait tendance à s'en prendre plutôt, par exemple, à Hillary Clinton. Et là, cette affaire ukrainienne l'oblige à attaquer principalement Joe Biden. Si Elizabeth Warren a pris la tête, c'est certainement à la suite des débats télévisés qui ont eu lieu la semaine dernière et dans lesquels elle a été très bonne de la vie générale. Peut-être que Trump, se trouvant obligé de parler beaucoup de Joe Biden, hein, puisque c'est l'affaire qui concerne son fils Hunter, va faire remonter ce dernier dans l'électorat démocrate.
Laurence Nardon de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Donald Trump qui doit aussi gérer la crise avec l'Iran. L'Assemblée générale des Nations unies aurait pu servir de cadre pour une reprise directe du dialogue entre Washington et Téhéran. Il n'en sera rien. Le président iranien Hassan Rouhani s'est montré intraitable à la tribune de l'ONU. Un discours suivi par notre envoyé spécial à New York, Christian Chéneau.
Sans surprise, il n'y aura pas de rencontre entre Donald Trump et le président iranien. Hassan Rouhani vient de le faire savoir à la tribune de l'ONU. Pour lui, ce rendez-vous au sommet avec le locataire de la Maison Blanche doit couronner les négociations et non pas intervenir à leur commencement.
Au nom de ma nation, de mon État, j'aimerais annoncer que notre réponse à toute offre de négociation alors que des sanctions nous sont imposées, est négative. Plutôt qu'un simulacre de négociation, vous pourriez revenir à la réalité des négociations. La séance photo est la dernière étape des négociations, pas la première.
C'est donc une fin de non-recevoir, malgré les efforts de médiation d'Emmanuel Macron, qui espérait ce geste symbolique à New York. Sur le dossier du Yémen, Hassan Rouhani a indiqué la disponibilité de l'Iran à résoudre le conflit. Il s'est également dit prêt à coopérer pour la sécurité dans le détroit d'Ormuz, dans le cadre d'une coalition de l'espoir.
Christian Chéneau, depuis le siège de l'ONU. Les députés britanniques ont repris leurs travaux ce matin après la décision de la Cour suprême d'annuler la suspension du Parlement. Qu'importe ce revers pour Boris Johnson, le Premier ministre a mis au défi ce soir l'opposition de voter une motion de défiance pour le renverser. Boris Johnson a une nouvelle fois appelé les députés à voter en faveur d'élections anticipées. Il veut avoir les coudées franches pour mettre en œuvre le Brexit le 31 octobre. Un scénario rejeté par les travaillistes de Jeremy Corbyn, le premier parti d'opposition à Westminster. En Israël, le président Reuven Rivlin a chargé ce soir Benjamin Netanyahou de former le prochain gouvernement après les élections du 17 septembre. Mais le premier ministre sortant a aussitôt essuyé un camouflet. Son rival centriste Benny Gantz se refuse d'entrer dans un gouvernement d'union nationale dirigé par un homme menacé d'inculpation. Benjamin Netanyahou est en effet convoqué par la justice israélienne la semaine prochaine. Il pourrait être inculpé pour une affaire de corruption. C'est des barbares. La petite phrase de Jean-Luc Mélenchon à propos des policiers suscite la polémique. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande des comptes au chef des Insoumis. Et du côté des policiers, le syndicat Alliance appelle à manifester demain devant le siège de la France Insoumise. Stéphane Robert, ces propos, Jean-Luc Mélenchon les a tenus dans un cadre précis, la mobilisation contre la réforme des retraites hier à Paris.
Oui, cette affaire débute hier lors des manifestations, vous le disiez, contre la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon s'adresse à des manifestants en présence de plusieurs caméras et il leur dit ceci.
C'est des barbares, soyez prudents, hein, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Hein.
Et il ajoute en s'adressant à un manifestant en particulier, samedi, si j'y avais été, ils me tuent, tu vois, ils attendent le prétexte, et puis après, c'est moi qui pleure de voir qu'ils vous éborgnent. Ces propos ont suscité l'exaspération des policiers, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a exigé des excuses, et puis le délégué général du syndicat de police Alliance, Frédéric Lagache, a demandé à son ministre d'aller plus loin, de porter plainte, avant d'appeler les policiers à manifester demain, 11h, devant les locaux de la France Insoumise à Paris.
À un moment donné, il faut que tout ça s'arrête. Ces provocations, ces insultes et ces intimidations. Moi, les gars, ils n'arrêtent pas de bosser tous les week-ends. Et entendre dire que ce sont des barbares alors qu'on a plus de 1800 aussi blessés, il faut arrêter à un moment ou à un autre. C'est un élu de la République, il doit avoir du bon sens. Et le bon sens, ce n'est pas ces provocations et ces intimidations.
On a là d'un côté un responsable public, Jean-Luc Mélenchon, qui se trouve fragilisé politiquement dans une attitude de victimisation, ainsi qu'on a pu le constater la semaine dernière devant la justice. En face, il y a à la fois un malaise et une forme d'exaspération de la part de policiers confrontés à la violence dans des manifestations qui durent depuis maintenant des mois et qui ont bien du mal à répondre aux accusations qu'il aurait faites de faire de la répression. Et le malaise policier est, semble-t-il, croissant puisqu'une intersyndicale appelle à manifester mercredi de la semaine prochaine un rassemblement dit de la colère qui entend alerter notamment sur une augmentation assez significative du nombre de suicides chez les policiers depuis le début de l'année.
Stéphane Robert, merci. C'est une illustration concrète du rapport du GIEC rendu public ce matin et des conséquences du réchauffement climatique sur la haute montagne. Sur le versant italien du massif du Mont Blanc, dans le Val d'Aoste, un énorme morceau de glacier de plan pincieux menace de s'effondrer. Il pourrait précipiter 250 000 mètres cubes de glace en aval sur le Val Ferré, une région peu habitée. Les autorités italiennes ont ordonné l'évacuation préventive des quelques habitations situées en contrebas. Le temps demain restera pluvieux sur la plupart des régions avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. En revanche, le soleil finira par s'imposer sur les régions méditerranéennes. Température minimale de 10 à 21 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 16 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.